Ta particularité, tu respires la joie de vivre et tu as une chienne qui répond au nom de Maya, qu'on adore tous. Abonnée au Paris-Marseille, 3h41 top chrono, parce que oui, on n'a clairement pas assez de soleil à la capitale. Ton truc à toi, c'est l'humain et surtout la win, comme le suggère ton prénom. Et quand tu ne travailles pas, tu en profites pour voyager. Récemment, tu es allé à New York, l'occasion de découvrir une ville où le passé réside dans le présent qui construit l'avenir. New York, c'est aussi une ville qui est gouvernée par l'entertainment. C'est d'ailleurs dans cette industrie que tu as commencé ton métier de journaliste avant de créer ton propre média qui s'intéresse à l'histoire des histoires. Journaliste d'origine algérienne et personne engagée, tu n'hésites pas à prendre position en publiant sur tes réseaux des photos poignantes de manifestations, notamment lors du rassemblement Justice pour Adama en juin 2020 que tu signes « Pas de justice, pas de paix ». Quand tu souris, nous aussi, et quand on t'écoute, on a l'impression que le monde ira un peu mieux demain grâce à ton optimisme et la manière dont tu brosses le portrait de nos réalités actuelles. Pour toi, Origine Média est une manière de mieux comprendre notre société, mais surtout de mieux se comprendre, de mieux s'accepter et de se respecter, car après tout, on vient tous de quelque part avec nos bagages culturels, sociaux et familiaux. Alors aujourd'hui, nous allons inverser les rôles pour raconter ton histoire et faire découvrir à nos auditeurs Origine Média pour ceux et celles qui ne sont pas encore familiers avec.
Le Red Bulletin.
Tu me régales, c'est incroyable cette intro. Franchement, merci, ça me touche de ouf, merci beaucoup. Oula, j'ai débranché carrément mon casque tellement je suis chamboulée par cette intro. Alors attends, je vais le rebrancher. C'est incroyable, merci beaucoup. Tu as résumé ma vie avec de très jolis mots. Et tu as calé ma chienne Maya, donc j'apprécie beaucoup.
Mais avec plaisir, parce que je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour information, avec Newin, on s'est rencontrés quand on était encore étudiante en école de journalisme. Mmh. D'ailleurs, pourquoi as-tu choisi de faire des études de journaliste ?
Alors, moi, je fais partie de ces personnes perdues. Honnêtement, je me suis jamais dit à l'âge de 10 ans, ouais, maman, je vais être journaliste. Ah bah, je vais être vétérinaire, puis danseuse, puis ci, puis ça. Et en fait, j'adorais la photo. Voilà, j'adorais la photo, mais vraiment sans y réfléchir vraiment professionnellement. Et quand on cherchait, tu sais, au lycée, quoi faire, quelles études, je me suis dit, ok, une école de photo, pourquoi pas? Et en fait, à l'école, tu sais, ils te disent, ouais, ça c'est bien, c'est pas bien. Ils disent, bah vu que toi, t'as 2 en maths, l'école de photo, c'est non pour toi. Et je me dis, ok, super, je vois pas le rapport, mais super. Donc, je me suis un peu intéressée à ce qui rapprochait, à ce qui se rapprochait de la photo, le photojournalisme, par exemple. Et donc, j'ai tenté le journalisme. Enfin, d'abord, j'ai fait une licence d'anglais que j'ai foirée. J'ai même pas passé mes rattrapages. Et après, j'ai fait une école de journalisme et je me suis dit, vas-y, let's go, tente. Franchement, t'as rien à perdre. Ça a l'air passionnant. T'as tenté une école. Je l'ai eue. Et voilà pourquoi le journalisme, à la base, c'était vraiment, je me cherchais en fait, c'était ça.
Est-ce que rentrer à l'IEJ, ça t'a permis de te trouver en tant que personne ?
Alors, ça a été le début, en tout cas, pour trouver mon chemin. Je ne veux pas dire que je me suis trouvée, mais ça a été le début dans le sens où j'ai adoré cette école, parce que c'est beaucoup de pratique. Et moi, tout ce qui est théorique, tout ce qui est cours, c'est très compliqué parce que j'ai un taux de concentration qui est très faible. Et donc, c'était vraiment génial. J'ai énormément appris de cette école. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et bien sûr, ça m'a fait découvrir le métier que je fais aujourd'hui. Donc oui, ça a été le début d'un chemin en tout cas.
Un métier de passion. Ouais. Je crois qu'en 2019, tu as publié un carrousel et tu as dit « Quand je me dis qu'aujourd'hui, je vis de ma passion, d'interviewer des personnes avec des parcours atypiques, je me dis quand même que je suis très privilégiée et chanceuse. Mmh. 10 photos ne suffisent pas pour parler de toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ces interviews, dans le rap, le cinéma ou encore la vie de tous les jours. Mais en tout cas, ces personnes m'ont appris beaucoup de choses sur la vie qui nous entoure et notre société. Donc merci. » Merci pour ces moments et merci de regarder ce qu'on produit tous les jours. J'espère que 2020 sera aussi instructif et impactant.
Je parle bien quand même. Hein.
Ouais, tu parles super bien. Et suite à ton cursus, on va dire, post-lycée, études supérieures, tu travailles pour Melty pendant 5 ans. En 2015, tu y arrives en tant qu'entertainer journaliste. Mm-hmm. En 2017, tu deviens content creator et tu finis alors en français, je ne sais plus comment on dit.
Rédaction vidéo.
Rédaction vidéo. De 2018 à 2020. Et du coup, en fait, avec ce poste, tu nous dis que tu espères que 2020 sera plus impactant, sachant que c'est aussi la fin du coup de Melty. Mm-hmm. Et c'est le moment où tu réfléchis à lancer Origine.
Exactement. Exactement. Ouais. Melty, ça a été, comme tu as pu le dire, Melty, j'ai pu faire plusieurs métiers. Donc, ça m'a beaucoup appris. Et ce que tu as mentionné tout à l'heure dans les écrits que j'ai pu mettre sur ce carrousel, quand je te parle de passion, et on parlait de journalisme un peu, quand je te parle de passion, moi, c'est l'interview. C'est pas le journalisme tel quel, c'est vraiment l'interview. Et 2020, oui, quand ça s'est fini, Melty, j'ai deux amis avec qui j'avais déjà pu travailler sur Melty, qui s'appellent Alex et Alexis, qui sont des spécialistes des réseaux sociaux, qui ont créé de belles communautés sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit « Viens avec nous, viens faire des petites vidéos chez nous ». Et moi, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, des vidéos de société et tout ». Et après, je me suis dit « Ce serait dommage juste de faire des vidéos, tu vois ». Et je me suis dit « Venez, on fait un média ». Donc, je me suis un peu triturer l'esprit. Et un jour, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis réveillée en pleine nuit et je leur ai écrit. Et je leur ai dit « J'ai cette idée de vidéo et j'ai cette deuxième idée de vidéo. Et en fait, ces deux vidéos-là se rejoignent et ça fait une ligne édito. Et en fait, cette ligne édito, c'était donc la première idée, c'était le format qui aujourd'hui, il était une fois. Et la deuxième idée, c'est le je suis avec les artistes. Et en fait, quand on lit ces deux formats-là, on tire une ligne édito sociologique, psychologique, une analyse de la société plus profonde, qu'on ne voit pas forcément dans les autres médias. On a des médias d'information, on a un peu comme j'appelle le BFM, mais plus, meilleure qualité d'Internet, c'est brut. On a l'entertainment, par exemple avec Combini, bon, avec Melty à l'époque. On a ces médias-là, mais on n'a pas de médias de l'humain sociologique, psychologique, tu vois. Donc je me suis dit, s'il n'y a pas de place, peut-être qu'il y a une place à prendre. Et donc voilà sur quoi on s'est lancé, quoi.
Tu te lances avec une première vidéo où tu invites Attic, un nom que tout le monde connaît aujourd'hui, un jeune rappeur qui te raconte énormément de choses. Alors comment ça se passe? Comment tu l'approches et comment tu travailles cette interview avec lui? Et pourquoi ce choix surtout de premier invité?
Ce choix de premier invité, alors j'ai eu d'autres invités avant Attic, mais c'était le premier invité artiste en tout cas. J'ai choisi Attic. Alors déjà, on va parler en tant que journaliste, l'actualité concordée, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est une personne que j'ai déjà interviewée à l'époque sur Melty. C'est devenu aussi un ami et c'est quelqu'un qui est... tellement intéressant par son histoire, par son honnêteté, par sa façon de raconter son histoire dans sa musique et par sa façon de l'expliquer dans ses interviews. Donc pour moi, c'était évident de l'avoir dans Origine. Déjà par ça. De plus, comme je disais, par son vécu, il a une très forte histoire Attic. Donc, c'est hyper intéressant de comprendre la personne qu'il était et comprendre comment il a réussi à s'en sortir. Parce que Attic fait partie des personnes. C'est son papa, il travaille pas dans la musique, sa maman non plus. Il s'est fait tout seul, quoi. Et aujourd'hui, il a fait partie d'une des plus grosses séries rap. Ses projets ont attiré énormément de fans. Il attire énormément de personnes dans ses concerts. Donc, il a vraiment réussi à se faire. Et donc, l'idée, c'était vraiment de comprendre l'être humain qui était derrière cet artiste, parce qu'on est tous des êtres humains, qu'on soit des artistes, des politiciens, des boulangers, etc. Et comment je l'ai préparé, c'est que je me suis dit, la meilleure manière de comprendre cette personne, c'est de lire ses paroles, d'écouter ses paroles, parce qu'elles n'étaient pas encore sorties. Donc, il fallait que j'écoute, que j'analyse, et je me dis, OK, là, il dit ça, donc ça veut peut-être dire ça. Donc, je me suis inspirée de ses paroles, et en interview, je lui dis, j'ai construit une ligne rouge avec ces paroles-là, en partant de sa base, en arrivant jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre un peu tout son mindset et toute sa façon de penser, d'agir, tout ce qu'il est aujourd'hui, en tout cas.
C'est un template, si je peux me permettre, que tu reproduis avec Sosomanes, ensuite avec Medine et Kalash récemment.
Ouais.
C'est aussi une dynamique qu'on retrouvait aussi avant dans la critique musicale. On prenait le temps de lire les paroles, okay. On prenait le temps d'écouter les productions, de faire le lien entre les deux et d'en ressortir en fait les messages et les valeurs que les artistes mettaient dans leur art. Chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui avec tout l'aspect promotionnel et marketing. marketing qu'il peut y avoir autour d'un rappeur ou d'un chanteur. Alors, les rappeurs, ils constituent les quatre vidéos du format Je suis. Mm-hmm. Et puis, on a aussi Il était une fois. Il était une fois, on est sur du trauma avec des personnes qui nous entourent, des gens de tous les jours, du quotidien. Dans ce format, on parle d'inceste, de viol, de perte d'enfants, d'abus, de torture et aussi de crack, donc de drogue. Ces interviews, c'est des interviews qui sont lourdes, qui sont riches, qui ont énormément de signification et qui sont nécessaires, notamment pour les interlocuteurs que tu as en face de toi. Mais en tant que journaliste, on est aussi impacté. Comment on fait quand on rencontre des gens qui ont un passé lourd, qui ont des histoires atroces, parce que là, on est vraiment sur des choses qui sont parfois morbides. Et ben, forcément, on est des êtres humains. Donc, à un moment donné, il faut aussi travailler sur soi. Mais ça, c'est un choix que tu as fait.
Alors, ce choix a été inconscient, je pense. Quand je me suis dirigée vers ces personnes, que j'avais envie d'interviewer ces personnes, qu'on avait envie de mettre en avant ces personnes, je n'ai pas forcément pensé à moi ou l'impact que ça pouvait avoir sur moi. C'est très, entre guillemets, c'est très égoïste, ma démarche, dans le sens où j'aime beaucoup, moi, l'être humain. C'est ce qui me motive, que ce soit, par exemple, donc, les artistes ou des personnes qui sont dans Il était une fois. J'aime vraiment comprendre l'être humain et je trouve que l'être humain, on le comprend vraiment quand il est confronté à des moments très complexe, très critique. Et c'est là où on voit vraiment toute la splendeur de l'être humain, toute sa complexité, et c'est là où on apprend vraiment. Donc je ne me suis pas vraiment dit « Waouh, ça va m'impacter ». Ça m'a impacté. Comment ? J'ai fait une erreur que je ne referai plus jamais. C'est quand j'ai lancé Origine, mais parce que j'étais excitée par le projet, j'ai fait 11 interviews, sachant que mes interviews ne durent pas 30-40 minutes, elles durent 2, 3, 4 heures. Donc, c'est-à-dire que c'est un long moment et c'est, comme tu dis, c'est des histoires très lourdes. Et j'ai fait 11 interviews en une semaine. Bah, comment vous dire qu'à la fin de la semaine, je me souviens très bien, je suis partie voir des amis, et bah, j'étais pas présente. Ça m'arrive jamais, hein. Je suis très joyeuse, très expressive. J'étais absolument présente. Je n'arrivais pas à être dans le moment. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. J'arrivais pas à trouver intéressant parce que j'étais confrontée à des choses beaucoup trop violentes. Et donc, c'est dans ces moments-là que je me suis dit, OK, là, va falloir que tu doses. Il va falloir que tu répartisses un peu plus tes interviews, que tu les partages aussi avec la journaliste avec qui tu travailles aujourd'hui, qui est Lucie. Et donc, c'est dans ces moments-là où je me suis dit ou que ça m'a impacté. Après, bien évidemment, j'ai fait une thérapie. Bon, ça, c'est parce que j'ai des propres problèmes. J'ai mes propres problèmes. Mais en vrai, j'ai cette capacité à, quand je suis avec la personne que j'interview, à complètement être en connexion avec elle parce que vraiment, cette personne m'intéresse, me touche et j'arrive à comprendre ses émotions, je pense. Enfin, je ne peux pas comprendre son vécu, mais ses émotions en tout cas. Et j'arrive à faire la part des choses après dans ma vie, je pense. Après, je te redis ça dans 2-3 ans. Peut-être que dans 2-3 ans, ça va me frapper en pleine face. Mais pour le moment, j'arrive à faire la part des choses. Et pourquoi j'arrive à faire la part des choses ? Parce qu'on prend toujours des personnes qui arrivent à s'en sortir. On a des personnes qui sont confrontées, comme tu dis, à l'inceste, au viol, au racisme, à l'homophobie, des choses qui sont d'une violence inhumaine. Pourtant, toutes ces personnes-là ont réussi à s'en sortir. Elles ont réussi à s'en sortir. Quand je dis s'en sortir, ça ne veut pas dire genre c'est bon, j'ai plus de trauma, je vais bien. Non, ça veut dire ok, j'ai vécu ça, aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Et grâce à ça, elles ont créé des belles choses. Il y en a qui ont créé des thérapies, il y en a qui ont créé des projets, il y en a qui ont réussi à créer une famille, tout simplement. Il y en a qui ont réussi à remanger. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à manger, qui ont des petites réussites comme ça. Et quand tu es face à ces personnes-là qui arrivent à s'en sortir malgré les plus grandes violences, bah toi, tu prends un peu de recul sur ta vie et sur ce qui arrive dans ce monde, en fait, tout simplement, je pense.
Du coup, tu apprends tous les jours avec eux, tu apprends à relativiser, tu apprends à avoir la vie du bon côté, même si ton capital sympathie et optimiste est assez conséquent dès le départ. mais effectivement, et du coup, avec. Ça me permet de faire le lien avec de l'autre côté, parce que cette communication que tu as, toi, dans Il était une fois, tu la donnes Et tu permets de l'avoir à un public, à ta communauté Instagram. De l'autre côté, c'est un format conversationnel entre deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas. Et à travers le métier ou le parcours d'un individu ou d'une individu, le public choisi a l'opportunité de poser des questions. Vous avez fait notamment une vidéo avec une travailleur du sexe.
Ouais.
Ça, c'était très compliqué à dire. Je ne sais pas comment cette personne doit être genrée, donc pardon.
Tu parles d'osmose ?
Absolument.
D'accord.
Donc voilà. Donc, comme ce choix de casting, je me suis aperçue que tu le faisais aussi sur les réseaux. Tu n'hésites pas à proposer d'intervenir. Et puis le choix, du coup, de ce set guest. Pour toi, il se fait comment ?
Alors, pour expliquer le format de l'autre côté, je vais t'expliquer Origine. En fait, plus généralement, Origine a pour but... ce qu'on remarque souvent dans les médias, c'est qu'on transmet souvent une information telle quelle. C'est-à-dire, je te donne un exemple, il y a tant de femmes victimes de violences conjugales, il y a tant de ci, tant de ça. Ok. C'est bien déjà d'avoir ces informations. Mais concrètement, qui sont ces personnes derrière ces informations ? Donc déjà, il y a cette première étape de comprendre qui sont ces personnes qui vivent ces informations-là. Ensuite, quand tu as cette étape-là, l'idée, c'est de comprendre comment elles les vivent. Parce que telle ou telle personne, une personne victime de violence conjugale et une autre personne victime de violence conjugale ne vivent pas les choses de la même manière et ne se remettent pas de la même manière. Donc déjà, il y a ces deux étapes-là. Et la troisième étape, c'est de se dire, prenons le temps de comprendre qui elles sont, pour comprendre ce qu'elles ont vécu, pour moins juger et pour mieux comprendre notre société. Donc ça, c'est l'envie globale d'Origine. Donc on l'a dans Il était une fois, on l'a dans Je suis et on l'a aussi dans De l'autre côté. Parce que dans De l'autre côté, déjà, donc, on fait venir des métiers ou des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer ou qu'on juge. Donc par exemple, un travailleur du sexe, on a aussi un ancien dealer international, on a un ancien agent de la DGSE. Donc on a des personnes au premier abord, tu te dis, ah ouais, lui il a fait de la prison, elle vend son corps, nanana. Donc tu juges, tu vois. Donc déjà, il y a cette volonté de mettre ces personnes-là qu'on juge en premier temps, et cette deuxième volonté de les cacher face aux personnes qu'ils rencontrent. Pourquoi ? Parce que si tu ne vois pas les personnes, les tabous s'enlèvent. Et la peur de brusquer brusquer quelqu'un, bah ça part en fait, tout simplement. Donc tu te sens plus libre de poser toutes les questions et t'as moins de tabous, tu vois. Donc c'est cette volonté-là, ce setup a été créé comme ça. Et les choix et les personnes qu'on prend, qui viennent interagir avec ces personnes-là, on propose à tout le monde. Voilà, vraiment, tout le monde a le droit de venir sur ce projet. On essaie quand même d'avoir des personnes curieuses, atypiques, bienveillantes. Bien évidemment, parce que le but, c'est pas de critiquer, le but, c'est de comprendre. Donc voilà, il y a quelques critères lorsqu'on choisit les personnes, et des personnes aussi à l'aise, bien évidemment. Malheureusement, quand on est trop timide, bah, ça risque un peu de casser l'énergie du format. Mais voilà un peu l'énergie de l'autre côté, de ce setup, de l'idée, et de pourquoi, en tout cas, il a été mis en place sur Origine, parce qu'il correspondait à l'identité du média, quoi.
Ça fait maintenant un peu plus d'un an que Origine Média existe. Vous comptez 22 vidéos à votre actif, si je dis pas de bêtises.
Oh, plus d'une centaine.
Plus d'une centaine ?
Attends. Oui, je crois.
Attends. Je parle sur YouTube.
Ah, sur YouTube. Ouais, mais moi je suis très Insta.
Ah,
YouTube n'est pas encore la meilleure. Mais celle Insta, elle est excellente.
Alors, pourquoi votre stratégie YouTube n'est pas encore la meilleure ?
Alors, elle n'est pas la... Et c'est un truc qu'on est en... C'est un truc. C'est pas le mot truc, mais voilà. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler parce qu'on a complètement conscience. Par exemple, Alex et Alexis sont des spécialistes de Facebook, TikTok, Snapchat. Moi, je m'y connais pas mal... Je connais pas mal Instagram, donc j'ai pas mal de connaissances sur Instagram. Donc voilà, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, on est des connaisseurs. Mais YouTube, il y a une manière de consommer qui est différente. Il y a une manière de communiquer qui est différente. Et donc, il faut juste prendre le temps de communiquer de cette manière-là, de la comprendre, de l'analyser, ce qu'on est en train de faire. Parce que le but, c'est justement d'être présent, pas de la même manière, mais en tout cas d'être présent avec la même force sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Mais donc voilà, YouTube, on a un peu cette lacune pour le moment, qu'on est en train de, enfin en tout cas on remédie à cette lacune en ce moment.
Quelle est la moyenne d'âge de ton audience?
Alors, la moyenne d'âge, ça se tape, entre 25-35 et 18-24. Voilà, après on arrive à toucher plus de 30-40, le nombre de fois où j'ai des potes qui me disent « Mon père a partagé ta vidéo, ma petite sœur a partagé ta vidéo ». Mais voilà, principalement, on est entre 18, je te donne vraiment une fourchette large, 18-35. C'est vraiment très large, là.
Moi, j'aimerais savoir, quand on se lance dans un projet comme ça, de grande envergure, il faut toujours penser à ce modèle économique et aux valeurs qu'on veut partager et ne pas se perdre à travers cet aspect financier qui peut vite nous dépasser et nous mettre la tête sous l'eau, en fin de compte. Vous l'avez réfléchi comment, ce modèle économique? Comment vous faites, quand on est un média 100% digital, pour vivre?
Alors, moi, j'ai de la chance déjà, c'est qu'avec avec mes associés, les cofondateurs, Alex et Alexis, ils m'ont dit, t'occupe pas de ça. On sait que ça t'angoisse. Moi, tout ce qui est argent, tout ce qui est business, c'est pas du tout mon délire. Donc, Alex et Alexis, heureusement, sont là pour penser à tout ça. Après, bien évidemment, je suis comme au courant de comment ça passe. Comme tu dis, on est un média où l'humain est au centre, les valeurs sont au... les valeurs humaines sont au centre. Donc, quand tu mets en lien le business et l'argent, ça devient compliqué. Nous, déjà, notre première volonté, c'est d'être complètement transparent avec notre communauté. Voilà. Nous, notre business économique, déjà, c'est pas mal la publicité. Voilà, Facebook, Snapchat, c'est de la publicité. YouTube, c'est de la publicité. On a cette volonté-là. On a cette rentrée d'argent de ce côté-là. Après, bien évidemment, le business va évoluer vers d'autres secteurs. Vers d'autres secteurs comme, par exemple, le média participatif. Je vais être honnête, on aura aussi peut-être des OP qui vont rentrer dans le média. Mais l'idée, c'est d'être transparent et honnête avec notre communauté. On leur dira toujours ce qu'il se passe de 1. Et on leur dira toujours que notre volonté première, c'est de rester en accord avec les valeurs du média. Alex, il m'appelle le dragon. C'est-à-dire que quand je ne suis pas en accord avec quelque chose, je deviens un dragon. Donc si demain, on me propose quelque chose qui n'est pas en accord avec Origine, mais je suis l'Algérien incarné. Voilà, tu connais le stéréotype des Algériens énervés? Bah, je suis ça. Donc, Alex et Alexis sont en accord avec moi, donc ça, il n'y a aucun problème. Et quand on est confronté avec des problèmes, par exemple, tu vois, Facebook, c'est une institution américaine, il y a énormément de tabous sur Facebook. Énormément de tabous. Il y a beaucoup de censures. Les premières censures de Facebook, c'est les traumatismes d'enfance, la drogue, le sexe, bref. Tous les sujets qu'on aborde, quoi. Et donc, malheureusement, on doit censurer, par exemple, nos sous-titres, des choses comme ça. Ce qui a été pour nous un vrai débat interne, qui a été une vraie problématique. Ça nous a fait vraiment... On a essayé de repousser au maximum. Mais au bout d'un moment, on ne pouvait pas, parce qu'on reste une entreprise. On est une petite équipe, mais on doit payer les gens qui travaillent pour nous. On doit aussi nous vivre. On doit aussi investir dans le média. Donc, on doit continuer à rentrer de l'argent dans le média. Et donc, on a dû censurer. Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur... On a fait une story, on a expliqué, on met un commentaire sous les posts dans le sens où on explique, voilà, vous voyez des mots censurés. Notre volonté, c'est pas de censurer les personnes qu'on interviewe, parce que notre volonté, c'est de casser les tabous. Malheureusement, on doit faire ça parce qu'il y a ça. On espère qu'il y aura de la compréhension, dans la communauté face à cette décision. Mais voilà, on est obligé de le faire pour le moment. Et dès qu'on peut s'émanciper de ça, en tout cas, on s'émancipera en tout cas. Mais voilà, l'idée, c'est d'être transparent face à ce business qui est lié à ce média, quoi.
En ce moment, vous êtes en pleine réflexion sur les perspectives évolutives,
ouais.
D'origine média. Comment tu visualises ton média dans 5 ans? Ce serait quoi l'idéal pour toi?
Oula. Alors déjà dans un an,
c'est déjà pas dans mal. Un an, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai.
Dans 6 mois, déjà.
Je vois très loin.
Non, au début, quand Origine, on l'a lancé, moi, je me suis jamais dit qu'Origine allait, qu'on allait avoir plus de 200 000 abonnés, qu'on allait faire des millions de vues, que des artistes allaient nous faire confiance. Je me suis jamais dit ça au début parce que, bah, tu connais le syndrome de l'imposteur. Salut, bonjour, il est à ma porte. Donc déjà, je pensais jamais arriver jusque-là. Maintenant qu'on est là, tout simplement, et que, ben, les ambitions grandissent, tu vois. Je sais pas si c'est français.
Oui. Si c'est français.
Si c'est français.
On va dire que c'est français.
En tout cas, on a envie de grandir. Et moi, j'ai envie qu'Origine soit au même niveau que les gros médias actuels, déjà, de base. J'ai envie que quand on pense à Brut, eh ben, on pense à Origine aussi, tu vois. J'ai envie que ce soit un média qui soit important pour les gens et qui impacte un nombre, le plus grand nombre. Qui impacte le plus grand nombre. Donc déjà, il y a cette première volonté d'être un média influent, impactant et aidant. Voilà. Donc déjà, c'est cette première chose. Diversifier nos formats, faire du reportage, faire du terrain. Diversifier donc nos formats. La deuxième chose, ça serait aussi, on aimerait beaucoup lier... après, j'ai pas trop envie de trop en dire, t'as vu. Mais vu qu'on est beaucoup sur la psychologie, finir par aider aussi les personnes. Proposer de l'aide aux personnes. Créer des plateformes où on aide les personnes qu'on interviewe, mais aussi les personnes qui regardent les vidéos et qui se retrouvent dans les traumatismes, ou en tout cas dans les problématiques qu'on met en lumière. Créer des plateformes, créer peut-être même des documentaires, des séries, des films. Enfin,
le champ des possibles est vaste.
Exactement, tu vois. L'idée d'Origine, c'est qu'on peut aborder n'importe quel type de sujet. On peut très bien parler de l'être humain, comme on peut parler d'une création artistique, comme on peut parler d'un projet. Et en plus, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a pris la ligne de faire des formats longs. Alors ça, c'était un risque de ouf, hein, parce que tout le monde aujourd'hui consomme du snack. Et aujourd'hui, on a dit non, aujourd'hui, on arrive avec du 15, du 20, du 25, du 30, du 40 minutes. Heureusement, ça a payé. Les gens étaient en mode genre, ouais, nous, on en veut, yes. Mais c'est super, parce que ça veut dire qu'on peut aller de plus en plus loin et de faire de plus en plus de longs formats. Et donc, comme tu dis, le champ des possibles est vaste.
Oui, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que plus c'est long, plus on a le temps de rentrer dans le cœur du sujet, de le travailler, de le décortiquer et de le partager de la manière la plus pure et la plus honnête possible. Chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire lorsqu'on est sur une production de snack content.
Exactement.
Donc voilà. Mais Néwin, je suis ravie de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Pour rappeler à nos auditeurs et à notre public des plateformes streaming audio, Origine Média, vous pouvez vous abonner sur Instagram, origine avec un s.media. N'hésitez pas, parce que c'est génial.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation, ça m'a fait grandement plaisir. Et oui, allez vous abonner.
Yes. Merci à toi, Néwin, et on se voit bientôt.
Avec plaisir.
Je suis Marie-Maxime Dricot. C'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté. Et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.